Vous l'avez peut-être constaté dans vos lectures, Paul, dans les lettres dont on est sûr qu'il a pu les concevoir, a un certain style assez différent des autres écrivains bibliques. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que Paul ne soit pas simplement un écrivain, mais qu'il soit un homme de l'oral. C'est-à-dire, il est presque certain, en tous les cas, que Paul dicte, sans doute après avoir préparé, mais dicte à quelqu'un qui prend des notes, tout ce qu'il dit. Ensuite, il est possible qu'il relise, je n'en sais absolument rien. Mais en tous les cas, cet élan qu'a Paul, qu'on retrouve dans ses lettres, ses torsions, ses... le fait qu'il revienne sur ce qu'il a dit, ses paradoxes provisoires, ses métaphores subites, tout ça viendrait peut-être de l'oral. Et en tant que prédicateur, quand je suis confronté à ça, j'ai un peu de mal à transformer la parole orale de Paul en texte écrit qu'il s'agira de retransformer en oral après. Donc, je me suis dit, puisque c'est Pentecôte, et puisque Paul parle d'abondance, je vais faire la même chose, avec un risque majeur, qui serait celui de me perdre. J'ai pris quelques notes néanmoins. En fait, je suis tombé en intérêt majeur avec ce texte dès la première phrase. Je vais vous la lire pour que vous la réentendiez. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous. Alors déjà, il y a énormément de puissance dans cette phrase. Alors, parlons d'abord de la femme qui accouche. Il semblerait que Paul, et c'est évident, mais... c'est bien de le redire, désigne une souffrance, mais pour lui, en tous les cas d'un point de vue masculiniste ou masculin, il désigne cette souffrance comme ayant un sens, une projection, une souffrance qui servirait à quelque chose. Donc une souffrance d'une certaine manière impure, dans le sens où elle n'est pas seule, elle est accompagnée de ce qui va arriver ensuite. Donc, comme une femme qui accouche. La souffrance qui aurait du sens, du projet. Il dit qu'elle souffre cette création en solidarité avec nous. C'est ce qui m'a profondément interpellé dès le départ. Puisque, par les temps qui courent, nous avons, nous aussi, une espèce de conscience que nous l'appelons création ou planète. Conscience que la création souffre. Mais il ne nous vient jamais à l'esprit de dire qu'elle souffre en solidarité avec nous. Nous pensons plutôt qu'elle souffre à cause de nous. Que nous sommes des gens, des humains extériorisés qui aimons faire souffrir la création, détruire les espèces, polluer les airs, l'eau, etc. Je ne vous fais pas un dessin que vous connaissez par cœur. Mais là, il y a cette mention de la solidarité. Ça m'a fait penser aussi à une espèce de paradoxe. Les personnes qui relatent que nous faisons souffrir la création et que nous sommes la cause de cette souffrance disent en même temps que nous faisons partie de la création. C'est peut-être un paradoxe que pour moi, mais je pense que si nous faisons exactement partie de la création et que cette création souffre, nous souffrons avec elle, et en fait, il semblerait que cette création se fasse souffrir elle-même, que nous sommes dans un système d'auto-souffrance permanent. Ce qui est un peu dangereux à penser. C'est pourquoi je reviens à Paul qui dit que... la création souffre en solidarité avec nous pour garder cette mention du lien qui nous unit à la création et puis peut-être pour nous délivrer d'une certaine culpabilité qui nous met au centre du projet de la création et peut-être commencer à avoir un petit soupçon d'espérance qui est le mot central finalement de cette prédication et aussi de ce texte et aussi probablement de toutes les lettres de Paul. Continuons. Il y a ici mention d'une attente insupportable. Avec cette phrase qui m'a remué, nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Cette espérance qui est liée à la souffrance. Alors je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus, et je voudrais procéder un peu à la critique de l'espérance. Vous savez, il y a des gens qui disent que espérer, c'est souffrir et qu'il vaut mieux désespérer pour arrêter de souffrir. Comment expliciter que ça a l'air bien comme ça, mais que c'est absurde? Dans la mesure où il est facile de constater que nous, êtres humains, nous sommes des personnes qui nous projetons en permanence et qui voyons, même si ça n'arrivera pas, voyons ce qui va arriver. Nous sommes au bord de la rue, nous allons la traverser et nous imaginons que nous arriverons vivants, par exemple, de l'autre côté de cette rue, peut-être pas pour trouver un travail, mais en tous les cas pour arriver de l'autre côté. Nous nous projetons en permanence, c'est notre vie, c'est notre cerveau, c'est notre neurologie. Nous inviter à désespérer pour être heureux, c'est tout simplement nous inviter à ne plus être nous-mêmes. Donc je voudrais, par cette prédication, réhabiliter l'espérance et vous rendre sensible à cette phrase de Paul, « Nous sommes sauvés, mais » vous rendre sensible à cette faculté d'être délivré d'un grand poids, vous savez. On répète aux chrétiens en permanence qu'ils sont sauvés par le ministère du Christ. Alors, vous vous dites, très bien, puisque vous êtes croyant, donc vous vous dites, ok, nous sommes sauvés, je suis sauvé, ils sont sauvés. Alors, peut-être vous vous regardez vous-même et vous vous dites, malgré le poids de l'existence que j'ai, j'arrive finalement à pouvoir considérer que ma vie n'est pas si horrible que ça, et donc je peux me dire que peut-être c'est une expression du salut. Puis rapidement vous vous rendez compte que vous vous retournez un petit peu et puis vous regardez le monde autour de vous et vous vous rendez compte que vous êtes, faites partie des 0,3% de la planète à ne pas avoir des conditions difficiles. Et là vous vous dites, je ne peux pas considérer que mon petit confort que j'ai est l'expression du salut. Et de la même façon, je ne peux pas considérer que je dois être le seul à être sauvé. Donc en fait, j'arrive à me dire, mais alors c'est quoi être sauvé? Est-ce que je suis sauvé finalement? Et là, on a besoin de Paul qui nous dit, vous avez été sauvé, mais en espérance seulement. Donc l'espérance ici nous apprend que le salut, certes, est gagné, mais qui n'est pas tout simplement révélé complètement. Donc le confort qu'on a et les petites joies de l'existence ne sont pas l'expression du salut, de la même façon qu'il n'est pas la peine de sombrer dans le désespoir en voyant que ce fameux Christ avec ses belles paroles en fait n'a pas changé le monde. Il y a l'ajout de la mention de l'espérance qui nous fait vivre le salut en avance. De la même façon que vous pouvez aller traverser la rue, vous y êtes déjà en pensée. Alors, certains disent que les chrétiens, du coup, sont victimes d'illusions. Alors, d'une part, je préfère avoir de l'espérance que de ne pas en avoir, et que cette illusion, s'il y en a une, en tout cas, me rend consistant, me rend valide, me rend lié avec les autres, parce que si j'ai aucune espérance, pourquoi j'irai aider quelqu'un d'autre?? Pourquoi je le laisserai s'approcher de moi? Non, l'espérance est une valeur très utile, pragmatiquement, mais on sent très bien qu'avec cette histoire de souffrance permanente et de l'attente, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. C'est là où la mention de l'Esprit et de Pentecôte peut arriver dans cette pure logique de ce texte. Nous avons le souffle. Ça ne suffit pas le salut, ça ne suffit pas l'espérance, ça ne suffit pas d'espérer que le salut soit totalement réalisé un jour et que nous sommes sur la route, certes. Il nous faut sortir de l'illusion de l'illusion. C'est pour ça que nous avons besoin de cette confirmation qui est donnée à l'assemblée des disciples dans le texte de Jean, qui est donnée à toutes sortes de gens dans un autre texte qui parle de Pentecôte dans le livre des Actes. Nous avons besoin de cette confirmation et donc là vous avez défini un triptyque. Certes le salut, mais l'espérance qui peut devenir une illusion et une forme de souffrance infinie et finir par « à quoi bon espérer ?» puisque ça n'arrive jamais. Il nous faut la confirmation et la confirmation c'est tout simplement une consolidation, c'est-à-dire faire entrer en nous une certitude inébranlable. La certitude que tout ceci est réel. Voilà ce que arrive à dire Paul. Et pour conclure, cette forme d'improvisation liée, je l'espère, peut-être à ce moment-là, ce que j'aime bien dans ce passage, bien qu'il nous parle de la disparition des souffrances corporelles, etc., parce qu'il avait un problème corporel, Paul, on ne sait pas trop ce que c'est, si ça se trouve, c'était une véritable écharde dans sa véritable chair. Bref, il nous décrit la réalité telle que nous la vivons. Il nous met en situation de ne pas désespérer de notre espérance. Et il nous indique la demande que nous devons faire, à savoir de recevoir notre confirmation. Sinon, nous resterons avec simplement nos deux parties, comme un guéridon, juste deux pieds, et il nous manque le troisième pied qui est vraiment la confirmation. C'est la logique des fêtes chrétiennes. Le salut, l'espérance et la confirmation, c'est ce simple message improvisé, exceptionnellement improvisé, et pourtant préparé, que j'ai envie de vous laisser ce matin. Amen.